Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, autour d'un thème commun, être vivant. Et ce soir avec Corinne Pelluchon, professeure de philosophie à l'université Gustave Eiffel, et dont toute l'œuvre, d'une certaine façon, tourne autour de cette question. Être vivant, donc Corinne Pelluchon, qui a publié de nombreux livres importants de philosophie morale, des éléments pour une éthique de la vulnérabilité, mais nous allons insister ce soir, entre autres, et nous allons insister ce soir tout particulièrement sur deux livres dont le lien fait mystère, dont le lien est au cœur de la pensée de Corinne Pelluchon, Les nourritures d'un côté, et de l'autre côté, pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps, les deux aux éditions du Seuil. Bonsoir Corinne Pelluchon.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc j'ai oublié de préciser que vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel. C'est son nouveau nom. Paris, ça s'appelait avant Paris Est. Je suis très heureux de cette occasion de discuter avec vous. À la charnière de tout votre travail, il y a une réflexion sur le vivant et la manière dont, depuis le vivant, et non pas en rompant avec lui, on peut accéder à la morale et à la politique. Et c'est au carrefour de plusieurs livres que nous allons discuter, mais je voudrais partir de la première phrase de votre livre intitulé « Les nourritures, philosophie du corps politique ». C'est une citation d'Emmanuel Lévinas, une citation bien connue, mais dont vous ne relevez pas le jeu de mots qui la nourrit, si j'ose dire. Je cite cette phrase donc « Au commencement était la fin », écrit Lévinas dans les carnets de captivité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'écrit le mot « fin » dans cette phrase? Comment est-ce que vous prenez cette phrase? Comment elle est pour vous un point de départ, justement? Au commencement était la fin.
Alors la fin, F-A-I-M.
Voilà.
Et bien, c'était dans Les nourritures, un livre qui concernait l'alimentation, mais pas seulement, tout ce dont je vis, et qui est naturel et culturel, les paysages, l'eau, l'air, le travail. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup insisté sur l'alimentation, parce que cela permet de suggérer que l'existence n'est pas seulement liée au projet, à l'arrachement, mais à la réceptivité, voire à l'incorporation. Et de plus, l'alimentation dépasse le dualisme biologique-social. Hein, c'est à la fois biologique, c'est social. Et puis, évidemment...
Parce qu'on est nourri par les autres
et
dans une société.
Par les autres, voilà. Et puis, il y a le fait que l'activité même de manger me nourrit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement remplir un estomac. Il y a aussi le besoin d'emblée vivre en plaisir. Et dans ce mot, et le pluriel des nourritures, célèbre aussi cette dimension de plaisir. Mais avant tout, au commencement était la fin, c'est quand même pour dire que l'éthique commence par les choses matérielles. C'est-à-dire que quand on souffre de privations extrêmes, et la faim en est une, eh bien on n'a ni accès au plaisir, mais on a aussi, on n'est pas libre. Donc avant de penser l'humain comme choix, comme volonté, comme liberté, il y a cette passivité première et cette dépendance à l'égard de ce dont on vit.
Mais est-ce qu'on pourrait même pas dire que vous allez plus loin, et plus loin que ce que vous venez de suggérer, et plus loin que Lévinas lui-même? Parce que quand il écrit « Au commencement était la fin », il fait du besoin de nourriture, un révélateur de la fragilité du corps humain, mais il la dépasse ensuite vers la relation à autrui. Et vous, on a l'impression que vous dites « Au commencement était la fin F-A-I-M », mais c'est aussi la fin F-I-N, la fin de notre action. C'est-à-dire, au fond, c'est pas juste un point de départ qu'il faut dépasser, cette dépendance du corps vivant. C'est dans cette dépendance élargie du corps vivant qu'il faut mettre toute l'éthique humaine.
Oui, disons que c'est vrai que Lévinas...
C'est un modèle général, si j'ose dire.
C'est vrai que Lévinas, oui, vous avez raison, Lévinas va séparer le monde des nourritures, où je suis comme ventre affamé n'a point d'oreille, dit-il, c'est-à-dire où je suis dans un frissonnement égoïste de la jouissance, je pense à moi. Il va séparer cela de l'éthique, laquelle commence pour lui par ma rencontre du visage d'autrui. Alors que moi, c'est vrai, je vais faire de l'alimentation et de mon rapport à ce dont je vis, donc même à l'espace, eh bien, le lieu de l'éthique. Car dès que je mange, je suis toujours en rapport avec les humains et les non-humains et les animaux, car j'ai un impact sur eux. Que je le veuille ou non, eh bien, je dis si je dis si je leur fais de la place au sein de mon existence. Donc pour moi, dès que je mange, finalement, je suis dans l'éthique. Et l'éthique ne concerne pas seulement mon rapport aux autres humains, mais aussi aux autres vivants, à tous les vivants. Donc effectivement, et c'est la raison pour laquelle même les finalités du politique ne seront pas seulement un jeu JEU entre nous, humains actuels, mais concerneront non seulement la protection de la biosphère finie, condition de mon existence, et aussi le rapport aux animaux et aux autres vivants.
Le rapport aux vivants, aux autres vivants, à l'écologie, à la
Tout
Terre
à
elle-même. Mais justement, de ce point de vue-là, au fond, vous dépassez le diagnostic de Lévinas, qui était dans une ambiguïté. La faim, F-A-I-M, est à la fois la révélateur d'une relation nécessaire, vitale, et en même temps peut occasionner un repli, vous venez de le montrer. Du coup, elle peut être très dangereuse, parce que lutter pour la vie, comme certains ont dit, lutter pour la vie, c'était une image de la vie absolument non éthique, chacun pour soi, les uns contre les autres. Le ventre affamé n'a point d'oreille, comme vous disiez, donc pour Lévinas, au fond, il faut garder de la faim cette dimension d'ouverture, mais en même temps se garder aussi de sa dimension de repli et de fermeture. Le vivant, pour lui, était une menace autant qu'une source pour l'éthique. Pour vous, c'est moins une menace.
Oui, pour moi, c'est pas une menace. Mais je crois que chez Lévinas, il y a aussi cette réflexion sur la précarité de l'existence. C'est-à-dire que souvent, les nourritures manquent. Mmh. Souvent, il y a un passage très intéressant dans Totalité infinie, quand il dit le Dasein de Heidegger n'a jamais faim. Mmh. C'est-à-dire qu'il pense l'humain comme projet, comme liberté, et ne voit pas cette matérialité de notre existence qui fait qu'avant même...
D'ailleurs, il y a une critique du besoin qui est comme étant sommaire chez Heidegger, alors justement, chez Lévinas, elle redevient vitale.
Elle redevient vitale, et puis surtout, il dit, quand les personnes, il cite les manuscrits de Marx, quand elles ont un travail difficile et qu'elles sont affamées, eh bien les aliments ne sont que des carburants. Mmh. Et on mange pour remplir un vide et retrouver un peu d'énergie pour revenir au travail. Et là, il y a une dimension d'humanité à laquelle on n'a pas accès. L'accès au plaisir est interdit parce qu'on est rivé aux besoins. Et donc ça, il y a cette force-là, cet ancrage de l'éthique dans la matérialité est très intéressante. Ça rappellera ce qu'il dira, les besoins matériels d'autrui sont mes besoins spirituels. Donc ça, je pense que c'était cette matérialité-là, magnifique.
Faudrait la répéter, Corinne.
Les besoins matériels d'autrui sont mes besoins spirituels.
Oui. Mais alors justement, Corinne Peluchon, ça nous amène tout de suite à quelque chose que vous analysez aussi très fortement dans votre livre sur les nourritures, comme dans vos autres livres d'ailleurs, mais cette source vitale de l'éthique, plutôt dans la fragilité, dans la vulnérabilité, vous dites que nous comprenons intuitivement que l'autre a faim. Quand nous voyons quelqu'un d'affamé, vous dites, la faim nous fait voir. La faim, c'est une sorte d'empathie, de sympathie immédiate. Nous sentons qu'il a faim. Et pourtant, vous direz peut-être Lévinas, sur lequel vous venez de publier donc ce très beau livre de commentaires. Pourtant, pour aider l'autre qui a faim, cette empathie physique ne suffit pas. Au contraire, je vais peut-être m'éloigner. Il faut le voir comme visage et non pas comme corps. Lévinas va opposer les deux. Alors, comment est-ce que vous faites de cette perception de la faim de l'autre, ce besoin matériel de l'autre, la source de...
Le point de départ de l'éthique. Alors, chez Lévinas, je dirais qu'il y a une tension, parce que dans Totalité infinie, vous avez raison, Frédéric Worms, le visage est la source de l'éthique. Mais, dans Autrement qu'être, en 74, il fait de la vulnérabilité, de mon corps, de la corporéité, de la passivité, et de le lieu de, l'éthique. Et ça, c'est vraiment très sensible dans cette phénoménologie de la passivité qu'il vraiment approfondit. Il n'y a pas seulement le visage. De même, il y a des textes, il y a un texte que j'adore, qu'on trouve dans De Dieu qui vient à l'idée, qui s'appelle Du droit à être, où il dit « Qui sait si ma place au soleil n'est pas usurpation de la place d'autrui par moi affamé et opprimé ?» Comme si, finalement, il fallait s'interroger sur ce que, dans son innocence, mes besoins, la place que j'assigne ou pas aux autres, à même la matérialité de mon existence. Alors moi, je me suis engouffrée dans ces pistes qu'il y a chez Lévinas. Et c'est vrai, de même la notion de nourriture, on la trouve dans Totalité infinie, et ensuite, il va l'abandonner, parce que c'est la responsabilité envers autrui.
Elle risque de nous enfermer, justement, dans ce qui, pour lui, est est quand même objet de soupçon, c'est-à-dire une philosophie peut-être réductrice de la vie. Et il faut une autre philosophie de la vie.
Ah, je ne crois pas. Je crois que c'est
qu'il y a... Pour les Lina, il y a ce risque, disons.
Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'il y a, chez lui plusieurs pistes. Et je trouve qu'il y a, je dirais qu'il y a une promesse d'une philosophie qui fait de la corporéité, du corps d'autrui, peut-être même du corps des autres vivants, le lieu de l'éthique, qu'il n'a pas totalement développé, car il s'est tellement centré sur la responsabilité envers autrui et les autres que cela a peut-être éclipsé le reste. Mais moi, c'est vrai, ça m'a tellement bouleversée de lire ça. Et puis, j'ai tellement été bouleversée aussi par cette dimension de plaisir qu'il décrit dans mon immersion dans le monde sensible, le fait que ce dont je vis, eh bien, ne m'aliène pas, mais comporte aussi cette dimension de plaisir quand je mange d'emblée le besoin virant plaisir, quand j'ai pas eu trop de privation. Et cela soulignait le fait que la déréliction n'est pas première, mais seconde, liée aux conditions économiques, matérielles, affectives, parce que les nourritures, souvent, dans notre vie, viennent à manquer. Mais je trouvais que cette dimension de plaisir attaché à l'existence était très intéressante. Et quand il parle de nourriture, il y a vraiment cette célébration de l'excédent des aliments, des paysages, qui sont toujours plus que ce que je peux percevoir. Ils dépassent ce que je peux en voir. Mais c'est vrai que le cœur de mon travail a été de montrer que si je pars de l'existant dans sa corporéité, comme être qui a soif, qui a faim, eh bien, et qui a besoin de manger, je vois que c'est toujours un sujet relationnel qui
retrouve
surgit.
Tout le reste, finalement, et c'est vrai que dans votre livre, les nourritures, justement, il y a ce vivre de est à la fois une dépendance, une fragilité majeure, une vulnérabilité, pour prendre le terme, en fait, qui est celui de votre traité, un de vos livres jalons, éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Mais en même temps, je voudrais revenir, avant de revenir sur la façon dont ce vivre de se retourne en plaisir et en éthique aussi de positive. Vous avez une philosophie de la vie très positive, très ouverte, et vous retrouvez toutes les dimensions du vivant. Quand même, sur la question que vous poserez peut-être, Lévinas, c'est-à-dire cet autre qui a faim, la faim de l'autre. Est-ce que je vais lui venir à son secours parce qu'il a faim ou parce qu'il est autrui? Est-ce que je viens à son secours pas à cause de sa vulnérabilité physique ou bien à cause de sa transcendance humaine? Au fond, c'est la question que lui posait aussi Derrida, le « tu ne tueras point ». Vous avez aussi écrit un commentaire de ce « tu ne tueras point ». Est-ce que c'est une transcendance morale ou est-ce que ça ne nous rappelle pas qu'on est mortel?
Mais je crois que c'est ça, vraiment, ça nous rappelle
dans cette mortalité,
qu'on est mortel, bien sûr. C'est vous rappeler, seul un moi vulnérable peut être responsable, et l'air de responsabilité que d'un mortel pour un autre mortel. Dans le visage d'autrui, c'est sa mortalité, sa fragilité que je vois. Ce n'est pas un autrui en gloire, mais vraiment aussi marqué par cela. Néanmoins, la responsabilité envers autrui n'est pas seulement celle envers un être qui serait souffrant. Elle est aussi un être que je peux aimer, et faut pas oublier cette dimension-là chez Lévinas. Il y a quand même quelque chose d'assez global, d'assez complet sur la condition humaine. En bon phénoménologue, il décrit l'existant dans sa corporéité, dans les phénomènes qui échappent à sa constitution, mais ils ont un volet de passivité, insomnie, fatigue, souffrance, douleur, mortalité, mais aussi un côté plus positif, les milieux, l'habitation. Et moi, c'est vrai, j'ai voulu montrer que cela faisait surgir un sujet toujours relationnel, toujours en rapport avec autrui, qu'il le veuille ou non, et avec même les autres vivants. Et j'ai trouvé qu'il y avait des ressources là, tout à même le mot nourriture est très intéressant. C'est pas des ressources, c'est pour dire la dimension non instrumentale de ce dont je vis.
Et la façon dont le monde peut venir à notre secours parce que nous avons faim, et puis tout à coup survient la nourriture, et c'est comme une relation au monde qui en révèle aussi peut-être ce que Lévinas peut appeler la bonté. Est-ce qu'il y aurait une sorte de joie dans le jouir que Lévinas reconnaît et critique? Vous voyez une joie au fond, dans plus profonde peut-être encore?
Oui, alors c'est vrai que ce qui est très intéressant dans cette dimension de plaisir attachée à la vie dans les nourritures, à ce dont je vis, c'est cette complaisance dans les choses, cette idée que vivre, ce n'est pas un souci, une volonté, un souci d'être, comme chez Heidegger, mais il y a cette gratuité, ce jeu en dépit de la tension de l'instinct, dit-il. Et là, je trouve que ça, c'est très intéressant. Mais Néanmoins, quand on parle de responsabilité, c'est vrai, et de faim, F-A-I-M, on insiste quand même sur la précarité de l'existence. Et c'est parce que les nourritures viennent à manquer ou qu'il y a un nécessaire partage difficile des nourriture ou des ressources, du travail, etc., que justement l'éthique a du sens, parce que l'éthique, c'est la question des limites, que j'assigne ou pas à mon droit sur toute chose au nom du droit des autres, et moi j'ajoute des générations futures et des autres vivants, à exister. Et je me suis intéressée à Lévinas aussi, enfin en tout cas il m'a tellement inspiré, j'avoue, mais sur ça, est-ce qu'il n'a pas travaillé sur une écophénoménologie, il n'a jamais, jamais exprimé
vers
sur le rapport aux animaux,
voilà.
Mais je trouvais que la phénoménologie, qui est la description de l'existant dans sa matérialité, permet de saisir la condition humaine et de la rafraîchir, au lieu de penser l'humain comme liberté et la socialité comme la coexistence de libertés rivales et souvent indifférentes les unes vers les autres, et bien avec la matérialité de l'existence, on montre, on fait bouger comme par ondes sismiques l'armature conceptuelle qui sert de fondation au libéralisme politique, qui doit, ne sera plus seulement lié à la sécurité entre nous et la réduction des inégalités iniques, mais en son sein, il aura la protection de la biosphère finie et la question du souci pour les générations futures et les animaux.
Mais
et
alors,
ça, c'est à partir de ce besoin matériel.
Voilà, Corinne Peluchon, justement, notre discussion porte sur le vivant, sur être vivant. Et au fond, on a l'impression quand même que pour vous, cette question de la vie peut être directement conçue comme éthique à travers cette question de la vulnérabilité. Il faut prendre soin de tous les êtres vulnérables et cette vulnérabilité, vous l'étendez au monde, vous l'étendez aux animaux, vous l'étendez à tout ce qui nous entoure, aux malades aussi. On a l'impression que la vie, votre retour à la vie, sert quand même à critiquer une prétention de l'être humain à l'autonomie absolue. Votre premier livre s'appelait déjà « L'autonomie brisée ». On a l'impression que le vivant est une des figures aujourd'hui par laquelle nous sommes ramenés à notre condition réelle et qui a avant, il y avait une sorte de peut-être d'excès, d'hubris, d'excès qui nous faisait oublier notre condition vitale. Est-ce que pour vous, le vivant est vraiment notre condition ultime ?
Alors,
ou est-ce que c'est juste une image de la vulnérabilité ?
Alors, plusieurs choses. Que ce que vous avez dit est très très riche là. D'avoir la critique de l'autonomie. Oui et non. La critique d'une certaine autonomie.
D'une autonomie pensée comme absolue, finalement.
Voilà, exactement. Et vous êtes bien placé aussi, avec vos travaux sur le soin, Frédéric Vance, pour savoir qu'aujourd'hui, bien, l'autonomie reste un horizon du soin, mais elle n'est pas seulement, elle n'est pas autoréférentielle, elle n'est pas seulement indépendance. À la lumière de la vulnérabilité, l'autonomie change. Et de même, moi, la vulnérabilité n'est pas seulement fragilité, elle est aussi la capacité à m'ouvrir à autrui et être responsable pour lui. Moi, ce que j'avais, la vulnérabilité, moi, les catégories majeures qui m'avaient intéressée, c'est l'autonomie, la vulnérabilité, la responsabilité, qui vont ensemble. À la lumière de la vulnérabilité, l'autonomie n'est pas seulement indépendance et mirage, fantasme de transparence à soi, mais la vulnérabilité n'est pas seulement passivité, elle est ouverture à autrui. Et moi qui suis philosophe politique, j'insiste beaucoup sur l'émancipation, les philosophies de la liberté, mais la responsabilité infléchie de l'intérieur.
C'est très important parce qu'aujourd'hui, les éthiques de la vulnérabilité ont presque renversé la vapeur et finalement dominent l'idée que tout est fragile,
exactement,
que tout va disparaître, qu'on
peut
rien faire, qu'on ne peut rien faire. Et vous allez vers plutôt une philosophie de l'action finalement, Corinne Peluchon.
Oui, puis moi je tiens beaucoup à l'idée que il faut l'autonomie morale, l'ipséité morale, pour parler comme Ricoeur, l'attestation de quelle valeur es-tu garant. Pour être des humains, pour répondre à l'appel d'autrui, même si cet appel vient d'ailleurs, d'une injonction extérieure, ne vient pas seulement de moi, il faut être disponible à ça. Et il faut aussi, dans un monde comme le nôtre, avoir le courage de croire encore à certaines valeurs qui pourtant dépérissent. Donc du coup, moi je maintiens une philosophie de la liberté. Et dans le livre qui est venu après, Les nourritures, éthique de la considération, c'est une éthique des vertus. Donc je reviens à fond à cette idée que le rapport à autrui et aux animaux et à la nature suppose un être humain qui connaît sa place, mais qui va assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres à exister, parce que d'une certaine manière il les porte en lui. Et je dirais que c'est le corps, la corporéité, notamment même la naissance, qui fait que je sens ce trouble de plusieurs existences derrière la mienne. Je ne suis pas seule au monde. Et donc, quand on réfléchit profondément sur la corporéité, alors on ne peut pas avoir une philosophie ni une politique de coexistence comme ça, d'individus atomistes.
Mais justement, c'est votre, la façon dont vous élargissez le vivre de, sur le quoi nous allons revenir. Nous vivons de nourriture, mais en un sens qui ne se réduit pas à ce que vous appelez dans une phrase que nous citerons tout à l'heure, la bonne soupe. Nous vivons peut-être aussi d'éthique, de justice, de considération. Vous élargissez toutes les dimensions vitales dont nous avons besoin pour vivre, et c'est cet élargissement sur le vivant auquel nous allons revenir après un petit tour de trapèze, puisque notre condition vitale est quand même un peu aérienne dans la chanson de Bachung.
On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Traquer les toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, être vivant, le thème que nous partageons avec Corinne Pelluchon, philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel et auteur de nombreux livres qui tous finalement rencontrent la question de la vie de différentes façons, de la vie, de ce qui est vital pour l'être humain, de ce qui nous permet de vivre complètement comme être humain, de la nourriture jusqu'à l'éthique et la politique. Et Corinne Pelluchon, on se disait en écoutant le trapèze de Bachung que vous aviez choisi une version lumineuse de Bachung dans son disque posthume. La première chanson porte plutôt sur la mort. Vous avez travaillé sur la mort, sur la fin de vie, hein, avec des questions éthiques. Mais de votre point de vue, de cette reconnaissance de la vie humaine dans toutes ses dimensions, finalement la mortalité est aussi une source de, il faut la reconnaître, c'est, la mortalité est une source d'éthique, de politique, c'est une source de justice finalement.
Oui, mais là je serais très lévinassienne. C'est que je pense qu'il est difficile d'anticiper la mort. Pour moi, la mort n'est pas le principe de l'individuation, comme chez Heidegger, mais c'est vraiment l'impossibilité de la possibilité, quoi, et pas la possibilité de mon impossibilité. Donc, il y a vraiment l'idée d'une aporie, d'une limite à ma pensée.
L'éthique du vivant, l'éthique qui surgit de la vie, puisque c'est le thème de notre discussion, ne vient pas du refus de la mort. En fait, vous êtes plutôt du côté de ceux qui disent le sage ne pense à rien moins qu'à la mort. Il pense à la vie, non pas à la mort.
Non, je pense qu'il pense aussi à la mort, mais je crois qu'on ne la maîtrise pas. Il y a une limite à ma pensée, mm-hmm. Mais il y a son tranchant aussi, mais justement, il y a ce très beau passage dans les cours que Lévinas a donné à la Sorbonne dans les années 70 où il dit que justement cette aporie, cette limite m'ouvre finalement au sens de la vie, au sens où justement ça m'ouvre à la responsabilité pour autrui, justement. Et c'est très intéressant parce qu'il pense la mort à partir du temps, de l'avenir, de cette humanité qui galope en aval et en amont, puisqu'il cite justement Bergson. personnes dans ce cours et je trouve, enfin, moi, ça me parle beaucoup. Mais c'est vrai que la
mort,
question...
c'est aussi le meurtre, c'est aussi le.
Alors ça,
le
c'est autre chose.
Point. La mort devient éthique comme la vie quand on entre dans les relations humaines aussi. Corinne Peluchon, est-ce que c'est justement ce que vous voulez dire aussi que la mort en elle-même peut nous égarer, mais que la possibilité du meurtre, le tu ne tueras point, font que la vie devient morale de
la
l'intérieur.
La tentation du meurtre.
La tentation.
Parce que chez Lévinas...
Pour vous, c'est une dimension interne aux humains.
Ah oui, moi je crois qu'il y a l'ambivalence de l'humain. Le fait qu'autrui me assigne des limites à mon pouvoir, que je ne peux pas le constituer, en faire le tour, et qu'il soit si différent de moi me dérange. Et que autrui est celui que je dois protéger, mais aussi celui que je peux vouloir tuer. Mmh. Et là, le meurtre, qui est un faire-taire, mmh. qui est pas seulement la domination, mmh. le duel, mais qui est la volonté d'anéantir l'autre comme tel, c'est quand même une tentation, et certes une impossibilité, puisque même si je mets fin à sa vie, je ne pourrais pas faire je pourrais pas nier qu'il ait existé. Néanmoins, voilà, ça, je crois que la question de l'ambivalence de nos rapports à autrui et la question de la tentation, de la domination et de la toute-puissance, moi, sont au cœur de mon travail. Je crois que vraiment, pour moi, c'est quelque chose, la destructivité de l'humain, pour moi, qui ai commencé ma carrière philosophique, si je puis dire, avec Léo Strauss, qui est quand même l'auteur qui est... Et regarde l'effondrement de la République de Weimar et c'est comme
qu'il a aussi critique un certain optimiste rationaliste en disant la politique c'est d'abord la possibilité de la guerre, la possibilité de ce que de la destruction et le philosophe politique c'est celui aussi comme le philosophe de la morale pour Lévinas qui affronte cette négativité là.
Absolument. Et vous dites quelque chose Frédéric Worms de très important, c'est que la philosophie politique, moi je dirais comment on devient philosophe politique ? Je crois qu'on le devient parce qu'on a la conscience de la possibilité du mal, de la tentation du mal, et que justement, il faut des institutions. Les institutions ne sont pas tout. Et la lévinassienne que je suis, c'est à quel point eh bien, les institutions comportent le risque de tyrannie, de réduction de l'autre même, de bureaucratisation qui efface les visages. Néanmoins, on a besoin des institutions. On a besoin d'assigner des limites à la tentation de chacun d'abuser de son pouvoir sur justement les êtres vulnérables qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Et donc ça, je pense que c'est assez clair chez moi. Donc là, il y a, si vous voulez, le vivant, pour moi, c'est une école. C'est une école de la diversité, de l'hétérogénéité des accès au réel. Les animaux...
Et de l'adversité.
Les animaux mettent en forme le monde. Ils sont configurateurs de sens, disait le grand Husserl, le papa de Lévinas. Ils ont, et de Merleau-Ponty et de tant d'autres, ce sont d'autres existants. Moi, ce que j'ai aimé chez les phénoménologues français, c'est la manière qu'ils ont de ne pas séparer l'existence et la vie, de ne pas les mettre l'une sur l'autre. Par exemple, moi qui travaille sur les animaux, je n'ai jamais dit que les humains et les animaux étaient pareils. Je veux dire que nous avons besoin de la représentation dans
vous
le désir.
Vous pensez des différences dans le vivant aussi, Corinne Peluchon.
Absolument.
Mais alors justement, vous faites... donc on discute de ces questions à partir de certains de vos livres en particulier. Le tout dernier s'intitule donc, et vous venez d'y faire allusion, « Pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps ». Et au fond, vous venez de résumer le respect très profond que vous avez pour Lévinas, la façon dont il vous inspire intégralement dans sa relation absolue à l'autre comme source de l'éthique, mais en même temps, les coups de force que vous lui faites subir, un premier du côté du vivant, on en a parlé, et là, vous venez d'évoquer le deuxième du point de vue du politique, qui pour Lévinas est toujours, là aussi, dans le risque d'écraser l'éthique. Pour Lévinas, le vivant comme le politique risque d'écraser cette relation. Pour vous, au contraire, vous partez de la relation et vous l'ouvrez sur le vivant et vous l'ouvrez à la politique. Et on a envie de vous demander, non pas est-ce que vous êtes fidèle à la lettre de Lévinas, car vous la dépassez, mais comment vous tenez tout ça ensemble ? C'est-à-dire, au fond, cette ouverture sur l'animal, cette ouverture sur l'écologie, mais d'un autre côté, les institutions démocratiques. Et quel est le point focal pour vous de tout ça, finalement, Corinne Peluchon ?
Alors, beaucoup de choses dans votre question, Frédéric Worms,
mais je dirais
l'articulation de l'éthique et du politique chez Lévinas.
C'est ça votre noyau dur, voilà. Corinne Peluchon.
Ah oui, c'est mon noyau dur. Alors, l'éthique et la politique... chez Lévinas, effectivement, on dit souvent la politique est seconde car elle comporte ce risque de tyrannie, donc il faut que l'éthique la limite. Mais pas seulement, car en définissant l'individu, non pas par la liberté mais par la responsabilité, en soulignant l'atteinte et le fait, et moi je vais m'engouffrer là-dedans, que l'altérité en moi, ma vulnérabilité et celle de l'autre, implique cette responsabilité pour l'autre. Et donc à partir du moment où la liberté ou l'identité est constituée par la réponse que je constitue substitue à l'autre. Par le fait, ma manière d'habiter la terre et de me comporter à l'égard des autres vivants, eh bien, mon rapport aux nourritures comme lieu de l'éthique et de la politique, ça c'est moi, eh bien, on ouvre là l'espace pour une autre configuration des institutions, où les institutions
On doit agir collectivement, historiquement.
Non, pas seulement. C'est que le fondement du politique ne sera pas reconstruit sur la coexistence des sujets libres et atomistes. Mais le point de départ de l'association politique, ou le point de départ du politique, ce sera un sujet toujours incarné et toujours relationnel, qui comporte en lui-même, justement, dans sa matérialité, le rapport aux autres vivants et aux nourritures, à la biosphère. Donc du coup, c'est déjà... Et puis, il y a aussi cette idée qui est très forte chez Lévinas, et on ne le dit pas assez, je crois. C'est qu'il y a chez lui une phénoménologie des droits de l'homme, une réflexion sur la socialité, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est pas seulement l'échange, le donnant-donnant. Il y a si
c'est
on
originaire,
pense...
c'est premier finalement.
Oui, et puis si on pense la responsabilité à partir du visage pour lui, ou en tout cas de la de ce que nous ouvre le visage, des autres aussi, que je vois le tiers à travers le visage d'autrui, parce que c'est pas seulement un duo, eh bien, à partir de ce moment-là, la politique peut pas seulement être l'armature d'institutions pour gérer les égoïsmes, quoi. Parce que sinon, c'est une fausse paix. C'est une paix qui ne tiendra que quand on aura des ressources suffisantes, et dès qu'il y aura plus de ressources suffisantes, eh bien, ce sera la guerre. Et donc ça, c'est... Et là, moi, dans ce cours, puisque c'était un séminaire que j'avais donné à des soignants, pour comprendre Lévinas.
Bien sûr, mais il n'y a rien de mieux pour travailler sur Lévinas que de l'enseigner. Hein. Lui-même disait que l'étude, l'enseignement, c'était le cœur même de la philosophie.
Et à un moment, je mets en rapport cette réflexion avec Jaurès, quand il dit finalement, une société qui est fondée seulement sur le donnant-donnant et la concurrence, eh bien, c'est une société où la paix n'est pas possible.
Mais alors, Corinne Peluchon, je voudrais revenir à une phrase très importante à laquelle j'avais fait allusion de votre livre sur les nourritures dans l'introduction, et qui ouvre surtout votre œuvre, aussi surtout votre travail, où vous élargissez votre idée fondamentale du vivre de. Oui. D'un vivre qui n'est pas seulement un fait clos sur un organisme isolé, qui n'est pas seulement non plus transitif au sens d'une expérience. Vous dites c'est transitif, mais quand on emploie le verbe vivre au sens transitif, c'est vivre une expérience, vivre un amour. Vivre de, c'est transitif, mais c'est une dépendance, c'est une relation réelle. Oui. Et voilà ce que vous écrivez. Vivre de, c'est vivre autant de bonne soupe que d'air et de lumière, de cinéma, de promenade, de travail, d'amour, de sommeil, de la ville et de la campagne. Et un peu plus loin, vous dites aussi, évidemment, qu'il faut vivre, et c'est dans aussi votre livre sur la considération, vivre de, c'est aussi vivre du regard d'autrui sur nous, pas seulement du regard de nous sur le visage de l'autre, vivre de la considération qu'on a pour nous, et pas seulement de celle que nous avons pour autrui. Pour vous, finalement, les valeurs sociales et politiques, vous le dites très bien, hein, vous venez de le dire très fortement, ne sont pas des principes abstraits, sont ce qui nous nourrit, et ce dont nous avons besoin pour vivre, sans quoi nous mourons, mais aussi ce qui peut nous rendre heureux, cette jouissance de la nourriture, on la trouve quand on nous donne à manger, mais aussi quand on nous donne du respect,
de la convivialité,
mais quand on nous donne aussi de la culture, quand on nous donne un habité complet avec le monde. Qu'est-ce qui est vital pour l'homme ? De quoi avons-nous besoin pour vivre ? Quand vous dites vivre de, au fond, de quoi fondamentalement les humains ont-ils besoin pour être vivants ?
Moi, je crois que vous venez de répondre à cette question, donc je vais répéter. Mais il y a effectivement un dépassement des dualismes. On n'a pas besoin seulement de choses naturelles ni de choses seulement culturelles. Voilà. Et de toute façon, les cultures, c'est lié aussi à notre corps et à la nature et vice-versa. Il y a vraiment un dépassement des dualismes nature-culture, individu social, raison, émotion. Et moi, bon, les nourritures, c'est un livre sur l'écologie, en fait, sur l'habitation de la terre. Et je trouve que souvent, les philosophies souffraient d'une double lacune. Les philosophies de la liberté, qui étaient un petit peu la liberté comme arrachement à la nature, et puis l'écologie arrive un petit peu
d'ailleurs
comme
par l'épreuve de la mort, puisque l'humain peut sacrifier son corps, donc il est libre, et donc il y a une liberté qui s'arrache au vivant, puisque je peux commettre le suicide ou sacrifier ma vie.
C'est
souvent dans l'histoire de la philosophie, chez Platon, chez Hegel, l'idée qu'on n'est pas seulement des vivants, c'est parce qu'on peut
on peut sacrifier sa vie. Puis surtout, il n'y avait pas cette réflexion sur les conditions de l'existence, en tout cas, et surtout dans la philosophie moderne et contemporaine de Hobbes à Rawls, hein, où l'écologie finalement n'entre pas au cœur du contrat social. Et puis l'autre lacune, eh bien, c'est peut-être dans certaines éthiques environnementales, eh bien, qui sont ou monistes, eh bien, ou qui en tout cas n'articulent pas l'écologie à l'existence. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est articuler une réflexion sur l'écologie à l'existence, c'est-à-dire faire une philosophie de l'habitation de la Terre, décrivant l'existant dans sa corporéité, la matérialité de son existence, faisant surgir des structures de l'existence qui vont servir de support pour une élaboration d'une théorie politique, puisque pour moi, la théorie politique ne s'intéresse pas seulement au pouvoir, ni aux institutions, mais à une réflexion sur le désir de vivre ensemble, et effectivement, qui va surtout pas de soi. Et donc, du coup, il y a une réflexion sur la condition humaine. Et la phénoménologie m'a donné des outils pour le faire sans appuyer cela sur des valeurs ou sur des subjectivations. Et donc, c'est... voilà.
Alors, quel est le phénomène premier pour vous, Corinne Peluchon? On sent que vous avez cette matrice commune, hein, d'une philosophie du vivre concret, de l'être humain en relation, et d'une relation qui donne pleinement sens à notre vie, que vous la décrivez intégralement. Mais entre la réponse à notre vulnérabilité physique, la considération envers notre personne morale, le rapport aux animaux, le rapport à la beauté du monde, est-ce que vous établissez une priorité au fond? Est-ce qu'il y a un principe premier, ou bien est-ce que c'est de tout cet ensemble dont nous avons besoin? Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait quand ça entre en conflit dans les choix politiques concrets?
Ça, c'est une question redoutable. Moi, je ne sais pas si j'établis une hiérarchie. Disons qu'il y a différents niveaux d'existence. Il est clair que nous avons le sentiment de nous accomplir quand nous avons une vie sociale, intellectuelle, le fait d'avoir un abri, de se nourrir ne suffit pas. Donc ça, c'est vraiment bon. Je crois que... la question, il y a évidemment, la politique, c'est aussi le lieu des conflits. C'est le lieu des conflits entre nous. La conflictualité est essentielle à la démocratie. La santé d'une démocratie, c'est d'encaisser, d'organiser la conflictualité.
Conflictualité qui ne devient pas forcément la guerre, justement.
Et qui ne devient pas la guerre, absolument. Et puis, c'est aussi le lieu des conflits, de devoirs, des priorisations. C'est vrai que moi, qui travaille beaucoup sur la question animale, question difficile, il y a des conflits d'intérêts majeurs entre eux, et des conflits de représentation qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Néanmoins, la question quand on est philosophe politique, c'est qu'il ne faut plus être pur, au sens où il s'agit de trouver les moyens de tracer des accords, sur fond de désaccords, de trouver des pistes communes pour co-instituer le bien commun, pour arriver à progresser, à faire en sorte qu'on détermine des règles d'une cohabitation plus juste avec les autres vivants, avec les autres humains et les autres vivants, et que aussi, et voilà, et ça on peut le faire ensemble sans trouver des compromis ne satisfaisant personne, mais évidemment en négociant. Et ça demande un changement de culture politique peut-être, sortir du clash pour arriver à délibérer et aussi arriver à tracer ces lignes communes. Et moi, je suis persuadée que sur la cause animale, on pourrait y arriver en très peu de temps, parce qu'il y a des choses à faire. Mais je voulais dire qu'aussi, moi, mon travail, si vous voulez, je sépare jamais les humains, les animaux et bon, ce qu'on peut appeler, faute de mieux, la nature. Et quand je mange, finalement, je suis toujours en contact aussi avec les personnes qui produisent les aliments, qui travaillent la terre. La question de l'agriculture est centrale dans les nourritures. Il y a une philosophie de l'agriculture. Les agriculteurs tracent, composent les paysages. On prépare les nourritures qui sont plus que des produits, des aliments. Donc tout ça, c'est vraiment... Et pour moi, il y a vraiment à redonner l'estime d'eux-mêmes, de ces personnes qui font un travail tout à fait important.
Alors, pour reboucler avec entre tous vos différents livres et revenir à la trame que vous retrouvez chez Emmanuel Lévinas, est-ce que vous diriez finalement que jusque dans l'expérience de l'alimentation, du fait de se nourrir, on doit avoir le sentiment d'une altérité finalement, et que quand on le rapport à l'animal est une des figures de l'altérité, que parfois en le consommant nous nions cette altérité, et vous voudriez plutôt une éthique de la nourriture qui respecte cette dimension de l'altérité dans la nourriture elle-même, finalement. Et le respect de l'animal, c'est aussi une façon de dire, bien sûr, vous en vivez des autres vivants, mais vous oubliez qu'il y a déjà de l'altérité profonde dès ce rapport entre les vivants.
Alors, deux choses. L'alimentation, c'est un sujet passionnant parce que c'est l'oralité, c'est l'incorporation.
Vous y insistez beaucoup, il y a même des pathologies de l'oralité.
Il y a des pathologies de l'oralité, l'anorexie, la boulimie.
D'ailleurs, le vivant, c'est toujours aussi la pathologie possible.
L'alimentation, c'est 860 millions de personnes qui souffrent de faim, 2 milliards de malnutrition. Dans le monde, environ 1,6 milliard d'individus, 2 milliards d'individus qui souffrent de malnutrition, 1,6 milliard d'obésité et tellement de gens qui sont sans cesse au régime. Ça méritait un livre. Donc vraiment, le rapport à l'alimentation n'est pas facile chez les humains. Et donc, il y a ça, il y a l'oralité.
C'est en même temps l'expérience primitive. On dit, d'ailleurs,
l'enfant,
on a longtemps nommé le bébé le nourrisson.
Pas le nourrisson.
Mais en même temps, cette obsession d'éviter la mort de faim, la famine, n'empêche pas des pathologies majeures aujourd'hui encore.
Et puis, on a parlé
mais
du nourrisson.
Mais ce rapport à l'altérité.
Dès le nourrisson, il y a quand même la mère. Je veux dire que quand on mange, il y a aussi le rapport, l'affectif, la dimension affective et sociale et symbolique sont constantes.
Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que le mot nourrisson a été si critiqué, parce qu'on réduisait le rapport nourrisson-figure maternelle à l'alimentation, alors qu'il y a aussi l'attachement, le désir, beaucoup d'autres choses.
Mais donc il y a ça. Et ensuite, donc c'est la dimension de l'alimentation, donc l'altérité. Alors la question des animaux, c'est différent. Je dirais que bon,
vous n'y voyez pas une figure de l'altérité ?
Dans quoi ?
Dans l'animalité.
Ah ben si. Pour moi, de toute façon, l'altérité est la figure majeure de mon travail. Et les animaux sont, c'est Lévi-Strauss qui disait le plus autrui de tous les autrui. Moi, je mettrais un pluriel. L'animal, ça n'existe pas. Il n'y a que des animaux avec une hétérogénéité des rapports au réel. Ce sont d'autres existants qui mettent en forme le monde. Ils sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé, dira Merleau-Ponty dans Les Causeries en 48, ce qui montre qu'il y a une précarité aussi de leur existence et une inquiétude fondamentale. Mais ce qu'il y a, c'est que la question, bon, d'abord, c'est vrai que, par exemple, quand on devient vegan, c'est qu'on ne veut pas faire couler le sang des bêtes pour se nourrir. Néanmoins, quand on est philosophe politique comme moi, et que donc on ne va pas interdire à autrui de manger comme il le désire, même si on peut essayer de l'influencer au passage,
on vit de la démocratie aussi, on vit du respect des diversités entre les humains, du pluralisme humain.
Ah bah quand on est lévinassienne, qu'on a peur du totalitarisme, mais c'est très important.
C'est important de le rappeler,
Exactement. Mais c'est très important. Et on n'oublie jamais, on oublie trop que l'altérité implique justement le pluralisme politique qui exige beaucoup de choses. Mais néanmoins, on peut s'interroger aujourd'hui à 7,5 milliards d'individus que le coût environnemental de la viande est manifeste, le coût social aussi, puisque la plupart, le soja cultivé ça et là en Amérique du Nord, il sert pour non pas pour les personnes, mais pour le bétail européen et américain. Mmh. Et puis, les animaux sont condamnés à la non-expression de leur sens et à des conditions d'exploitation qui feraient honte à nos ancêtres pour fournir en masse de la viande. Donc moi, devant cela, qui a été un traumatisme, moi, vous savez, bon, Lévinas ne parle pas des animaux, mais moi, je suis devenue l'otage de la question animale, c'est-à-dire que le jour où j'ai compris
l'otage
l'intensité...
L'otage qui est une des grandes catégories de l'éthique de Lévinas.
Qui est inassumable. C'est l'otage, c'est comprendre quelque chose, être responsable de ce que les autres ont fait, de ce qu'ils m'ont fait, de la responsabilité de l'autre. C'est incompréhensible, ça veut dire que c'est quelque chose d'inassumable. Et moi, c'est le rapport aux animaux qui m'a permis de comprendre ça, c'est-à-dire quelque chose où j'ai traversé le miroir et je ne suis jamais tout à fait revenue. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est quand même une figure aussi du mal, mais ça ne veut pas dire que, comme ça, on va claquer des doigts et imposer les choses. Je pense que là aussi, moi, le travail que j'ai essayé de faire, c'est de fournir des outils pour l'éthique, mais surtout pour la politique, afin que l'écologie, la cause animale, entre dans nos vies et dans la démocratie.
Merci Corinne Peluchon pour ce parcours du vivant jusqu'à l'éthique et la politique et retour.
Merci Frédéric Worms.
Matière à penser, c'était ce soir avec Corinne Peluchon, philosophe, professeure à l'université Gustave Eiffel, et avec, grâce aussi à Valérie Lavalla, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Julie Voinchet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. À bientôt!